talmudique.
Faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó.
Nathan Vachtel, bonjour.
Bonjour.
Nathan Vachtel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre conversation autour des Juifs maranes du Pérou et en particulier ceux de la ville de Selendín que nous avons commencé à découvrir la semaine dernière avec vous autour de votre livre « Sous le ciel de l'Éden ». Nous sommes en train d'entendre l'hymne national de la République du Pérou, dont voici la traduction de la dernière strophe. Je vous la lis qu'en français. Sur leur sommet, les Andes soutiennent le drapeau bicolore qui annonce au siècle l'effort que la liberté à jamais nous coûta, qu'à leur ombre nous vivons tranquilles et qu'au soleil naissant par ces sommets, nous renouvelions le grand serment que nous avons prêté au Dieu de Jacob. Ce texte, parfois discuté quant à sa légitimité ou du moins quant à sa pertinence à en poursuivre la tradition, peut questionner l'auditeur occidental plus habitué à la dimension laïque des républiques. Que signifie la présence ici officielle de ce Dieu de Jacob? Est-ce un résidu de la présence marane, non seulement comme on en trouve de manière périphérique dans la petite ville de Selendín, mais aussi dans les institutions centrales du pouvoir péruvien? Ou peut-être cela procède d'un autre faisceau d'explication que j'aimerais entendre. Parce qu'il faut préciser que l'expression « Dieu de Jacob » se retrouve dans les prières maranes, Nathan Vachtel.
J'avoue que c'est une question que je ne m'étais pas posée. Et effectivement, on peut se demander s'il y a une explication qui serait liée à une présence marane. Au risque de vous décevoir, je ne peux que laisser le point d'interrogation. Dans mon sous-titre « Une mémoire marane au Pérou », il y a en effet, comme vous l'aviez signalé précédemment, un point d'interrogation, car cette mémoire marane au Pérou et à Selendín où j'ai travaillé, aujourd'hui, est faite de fragments, de traces vraiment très atténuées. Elle est presque effacée. Et si on avait pu faire une enquête quelques décennies plus tôt, on aurait peut-être, si j'avais pu aller à Selendín, si j'avais pensé aller à Selendín dans les années 1970-80, à l'époque des grands-parents dont mes informateurs me parlaient, je suppose que j'aurais trouvé terrain plus riche. Mais alors, au début du, je ne sais pas de quand date l'hymne péruvien.
1960 à peu près.
Mais au 19e siècle en tout cas, des traces de mémoire marane étaient sans doute encore plus solides. Mais y a-t-il un lien avec l'hymne national? Gardons le point d'interrogation.
Soyons prudents. Dans ce contexte, on peut distinguer deux histoires où se croisent différents fantasmes d'origine. D'une part, celle des crypto-juifs, dont nous avons parlé la semaine dernière, et d'autre part, celle des Indiens eux-mêmes. Je pense à ce que vous rapportez dans votre avant-dernier ouvrage, intitulé « Paradis du Nouveau Monde », qui concerne la théorie de l'Indien juif, que j'aimerais que vous nous présentiez précisément, Nathan Vachtel.
Mais alors, à propos, je reviens à Selendín, car il y a une autre histoire qu'on n'avait pas pu évoquer dans l'émission précédente, c'est la conversion collective, au début des années 1990, d'une centaine de personnes qui se sont converties officiellement au judaïsme orthodoxe, et qui ont fait, en grande majorité leur alia en Israël. Et une grande partie de ces personnes qui faisaient partie de cette congrégation Israël des Dios étaient donc passées par une phase adventiste, mais c'est encore un point que l'on peut résumer. Quand ils sont arrivés en Israël, on les a considérés comme des Indiens juifs. Et ce terme d'Indien juif, on le retrouve donc aujourd'hui à propos de Céline Digne pour ceux qui se sont reconvertis au judaïsme. Alors, en ce qui concerne maintenant le thème historique de la théorie de l'Indien juif, alors nous revenons au XVIe siècle, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, nous savons que s'ensuit toute une série de bouleversement dans les représentations du monde et notamment la découverte de cette humanité qui était insoupçonnée, ces hommes, apparemment des êtres humains, qui peuplent les Amériques. Quelle est leur origine? Bon. Et pour trouver une explication qui permet de rattacher l'inconnu à des choses connues, le plus simple, et c'est l'explication à l'époque qui fait autorité, bien sûr, c'est l'explication biblique. Et l'une des explications les plus répandues, les plus populaires, c'est donc de rattacher ces êtres humains que l'on rencontre dans les Amériques, de les rattacher aux tribus perdues d'Israël. Et sur le thème des tribus perdues d'Israël, il y a, comme vous savez, des bibliothèques entières où se trouvent maintenant ces tribus perdues. Elles se sont répandues dans le monde entier, elles aussi. Et cette théorie, donc, de l'Indien juif, cela a été l'explication, je répète, la plus répandue pendant 3 siècles, disons jusqu'au 18e siècle, mais jusqu'au 19e siècle encore, il y a donc des traités très savants, très érudits. Ce ne sont pas des élucubrations fantaisistes, ce sont des auteurs très sérieux qui démontrent donc que les Indiens pratiquent donc, à commencer par l'idolâtrie. Les tribus d'Israël ont été châtiées en raison de leur pratique idolâtre. Et c'est un argument, justement, qui peut sembler paradoxal, mais pour, donc, démontrer, entre autres, les rites qu'ils pratiquent sont des rites judaïsants, que c'est, etc., etc. Bien. Et jusqu'au moment où on a quand même de mieux en mieux connu les coutumes indiennes et au XIXe siècle, il devenait difficile de soutenir la théorie de l'Indien juif, encore que l'Église mormone, elle, continue à rattacher les Indiens, au moins une partie d'entre eux, aux tribus d'Israël.
Alors ce qui est intéressant, c'est de montrer comment, dans ces théories, les tribus d'Israël sont emmenées en esclavage ou en déportation par un roi babylonien, puis ils vont remonter vers le nord, vers ce qui serait aujourd'hui l'Arménie, puis la Russie. Puis
ils ont continué à migrer jusque dans le nord-est de l'Asie, jusqu'à Arsaret, c'est le lieu où ils se retrouvent au bout de l'Europe orientale de la Sibérie, et ils franchissent le détroit que nous appelons aujourd'hui de Bering et repeuplent l'Amérique du nord au sud.
Alors moi j'étais très sensible par des versets bibliques, vous dites c'est biblique, je vais vous en lire deux, enfin il y a 8 références, mais « Vaivarer Otam Elohim, les morts, Pérou Urvu, Umilu et Amaïm », ça veut dire « Dieu les bénit » et leur dit « Pérou Urvu », ça veut dire « Croissez et multipliez-vous ». Mais en hébreu, « Croissez » se dit « Pérou », et puis on a un verset un peu plus tard qui dit « Pérou Urvu, Umilu et Aretz, ve Kifshua », vous avez le mot « Pérou » et vous avez le mot « Keshua » ou « Ketshua ». Et donc, je me suis demandé, est-ce que ces versets hébreux n'ont pas alimenté cet imaginaire indien de cette origine biblique?
Cela fait partie des preuves, entre guillemets, qui soutiennent justement la démonstration. Les preuves pseudo-étymologiques, alors il y a le terme « Pérou » que l'on trouve justement dans l'argumentation, d'autres mots également, et ces fausses étymologies sont considérées comme des preuves scientifiques, justement, car fondées sur la linguistique. Si aujourd'hui on les interprète comme une invention pour la démonstration, cela fait partie du souci de démonstration rigoureuse. Il ne faut pas le prendre comme une fantaisie, une élucubration. Ces démonstrations se veulent et sont très rigoureuses, tenant compte des connaissances de l'époque, et elles se fondent sur l'examen de théorie. Par exemple, cette démonstration se fonde sur la réfutation de dizaines de fausses théories jusqu'au moment où on trouve le père de l'Église qui introduit donc ce thème, et cela fait partie du raisonnement rigoureux.
Alors, parmi les personnages qui ont beaucoup contribué à cette propagation de la théorie de l'Indien juif, je pense bien sûr à la figure majeure de Manassé ben Israël dans son livre « L'espérance d'Israël », un moment important dans l'histoire de la pensée parce que ce livre a beaucoup marqué les esprits dans le judaïsme lui-même.
C'est un épisode très important et il faut rappeler justement comment Manassé ben Israël a été amené à écrire son traité « Espérance Israël ». C'est à la suite du récit d'un voyageur qui, dans les Andes, dans la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire dans la Colombie actuelle, avait rencontré justement un groupe qu'il a fini par considérer, là je suis obligé de résumer très vite le récit de ce voyageur, et il est allé à son retour rencontrer Manassé ben Israël.
Qui était Manassé ben Israël?
C'est un des grands auteurs qui fait la transition entre le maranisme portugais, justement, puisqu'il est né à Lisbonne, jeune, très jeune, il était enfant, ses parents vont à Amsterdam, c'est donc un nouveau juif d'Amsterdam, et brillant, il devient rabbin très jeune, très tôt, et étant donné son origine, justement, il est l'un des précurseurs d'un dialogue, on peut dire, entre judaïsme et christianisme. Et ce thème de la découverte des tribus perdues dans les Amériques, c'est un thème très important parce que il annonce la fin des temps et l'arrivée du Messie, aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs. Alors pour les chrétiens, l'arrivée du Messie sera précédée de la conversion des juifs, et pour les juifs, l'arrivée du Messie aura lieu quand les juifs seront répandus partout dans le monde. Et justement, Manassé ben Israël pense que les temps du Messie sont proches parce que l'extension des Juifs partout dans le monde a lieu justement en raison de ces réseaux maranes dont j'ai parlé précédemment, et le fait de découvrir les tribus perdues en Israël le confirme. Mais aux deux questions, Manassé ben Israël répond de manière très claire. Alors, première question, est-ce que le récit du voyageur Antonio de Montesinos est vrai? A-t-il menti ou ce récit est-il authentique? Autrement dit, peut-on admettre que les tribus perdues se trouvent dans les Amériques? Deuxième question, est-ce que les Indiens sont descendants de ces tribus perdues? La réponse de Manassé est très claire. Première question, est-ce que les tribus perdues se retrouvent dans les Amériques? Oui, le récit de Montesino est véridique. Il a juré devant témoins, il l'a répété sur son lit de mort, aucun doute. Deuxième question, est-ce que les Indiens sont descendants des tribus perdues? Non, ce n'est pas possible. Parce que il ne retient pas le fait que les Indiens idolâtrent, c'est un argument. Non, au contraire, les Juifs gardent la mémoire, ne sont pas idolâtres, et donc ils n'abondent pas dans le thème de l'Indien juif. Mais pour que le thème de l'Indien juif soit de moins en moins crédible, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle.
C'est formidable ce que vous venez de dire, Nathan Wachtel. Et je pensais aussi au fait que Freud, dans son cabinet de psychanalyste, à quelques mètres de son divan, avait le portrait de Manassé ben Israël réalisé par Rembrandt lui-même. Et je me suis dit qu'il y avait un lien peut-être essentiel entre maranisme et psychanalyse.
Écoutez, je n'ai pas sous les yeux le texte de Freud sur justement son rapport au judaïsme, mais c'est là qu'il faudrait citer le texte, me rappelant le texte de Freud de mémoire, mais évidemment Freud le dit beaucoup mieux, parce qu'il parle de son attachement au judaïsme que l'on ne peut pas traduire, que les mots ne peuvent pas traduire. Alors si Freud lui-même ne trouve pas les mots, c'est dire que c'est un attachement de type vraiment freudien.
Premier prélude du clavier bien tempéré de Bach, revisité par Gounod, improvisant au piano et transcrit pour le violon par Pierre Zimmermann, le futur beau-père de Gounod, avec au départ des vers de Lamartine, remplacés par la suite par les paroles plus sobres de l'Ave Maria, et joué ici à la flûte de Pan par Daniela de Santos. C'est bien sûr un petit clin d'œil, Nathan Bachtel, une façon de dire à la fois le mélange des genres, mais là aussi la complexité des choses et des histoires, et en ce qui concerne cette histoire des Maranes du Pérou, la complexité quant à la vérité de l'origine de ces groupes d'hommes et de femmes qui se revendiquent juifs ou crypto-juifs, car il y a encore d'autres possibilités que vous évoquez dans votre livre, je pense à ce que vous dites des différents groupes chrétiens, et en particulier des adventistes du septième jour. Nathan Bachtel.
En effet, dans la région de Selendín, de Cajamarca, du nord du Pérou, depuis les années 1960-70, il y a une influence adventiste importante et cela rend la réalité que l'on peut étudier très complexe, puisque un certain nombre de croyances, de rites que l'on pourrait attribuer à un crypto-judaïsme peuvent aussi être expliqués par le fait que l'Église adventiste, il y a un fondement essentiel sur l'Ancien Testament. Et donc, un certain nombre de rites que l'on peut considérer comme judaïsants ne seraient pas d'origine crypto-juive, mais s'expliqueraient par cette influence de l'adventisme.
Par exemple, le respect du Shabbat.
Oui, bien sûr. Adventisme du septième jour, le Shabbat qui est respecté le samedi, par définition, pour commencer. Et c'est une difficulté de nos études, donc, que l'on retrouve non seulement dans la région du Nord-Pérou, j'y faisais allusion dans l'émission précédente, au sud-ouest des États-Unis, dans le Nouveau-Mexique, au nord du Mexique, dans les anciennes régions de Nouvelle-Espagne mexicaine, mais c'est là que les choses sont également complexes. Ce sont là, surtout dans le sud-ouest des États-Unis, ce sont des polémiques violentes, mais vraiment terribles, et on ne peut pas avoir de position trop affirmée qui ne serait pas suffisamment nuancée. Parce que si on nie toute influence crypto-juive et si on attribue tout à l'influence adventiste, cette manière de raisonner est très facilement réfutable également, car on a pu aussi montrer que un certain nombre de personnes qui se convertissaient à l'adventisme pouvaient être d'origine crypto-juive et se convertissaient à l'adventisme, justement parce que cela leur permettait de pratiquer les rites judaïsants de manière moins discrète et plus aisée. Donc, qu'est-ce qui est d'origine adventiste? Qu'est-ce qui est d'origine crypto-juif? Souvent, les deux. La difficulté est, il faut admettre l'existence des deux phénomènes, ce que j'appelle une mémoire marane et une influence adventiste, la difficulté est de faire la part des choses. Bon. Alors, dans certains cas, et dans le cas des conversions collectives à Selendín, dans le nord du Pérou, dans les années 1990, dans un grand nombre de cas, on peut admettre que une bonne partie de ces conversions sont dues tout simplement, sans chercher plus loin, à l'évolution d'une foi religieuse, et cette foi religieuse les a conduits du catholicisme à l'adventisme, de l'adventisme au judaïsme. Est-ce que parmi ces convertis, certains étaient d'origine nouvelle chrétienne? Ça n'est pas impossible. Alors, le cas de Segundo Villanueva, c'est-à-dire le guide spirituel de la congrégation Israel de Dios, ce n'est pas sûr, mais comme il est né à Sorochuco, un petit village de la province de Cajamarca, qui a une particularité, son église n'est pas dédiée à un saint ou à une sainte, mais est dédiée au Père éternel. Et c'est un cas quand même original dans toute la région. Il y a un pèlerinage qui a lieu le 10 juin, qui réunit des milliers de pèlerins qui viennent de toutes parts pour le Père éternel. Et donc, un certain nombre de ces convertis venant de l'adventisme pouvaient être d'origine nouvelle chrétienne. Et je pense, pour en revenir encore au thème du bleu et des yeux bleus, à l'un des informateurs, justement, est devenu ami, l'un des témoins, je préfère le terme de témoin à celui d'informateur, Hector, dont le restaurant s'appelle El Zarco, c'est-à-dire les yeux bleus. Et ce témoin, donc, raconte dans son récit de vie, selon lui, les nouveaux chrétiens était arrivé dès le XVIe siècle, envoyé même par la reine Isabelle la catholique. C'est un des thèmes du folklore. Et dans son récit, les juifs, nouveaux chrétiens au Pérou, sont restés entre eux, ont pratiqué des mariages endogames pendant un siècle. Et puis, au bout d'un siècle, ils ont fini par se mélanger avec le reste de la population. Et la majorité donc de la population est aujourd'hui métisse. Mais ce témoin, Hector, quand il termine son récit de vie, je vais le citer de mémoire, il dit « La population aujourd'hui du Pérou est métissée, moi-même je suis métisse ». Et il utilise même le terme péjoratif de « métisse », c'est dans l'espagnol du Pérou, c'est le terme de « cholo ». C'est très péjoratif. Et il dit, en se prenant lui-même à témoin, « Regardez-moi, regardez mon visage. J'ai une tête de cholo, mais regardez mes yeux. J'ai les yeux bleus. » Et effectivement, il a les yeux bleu-vert. Il a intitulé son restaurant « El Zarco ». Ce n'est pas un hasard. Ah, il conclut, « Et ceci est très ibérique, ma foi juive vient de la part juive de mon sang. » Et donc, c'est sa manière de montrer à quel point sa foi est authentique et fervente.
On vous écouterait des heures raconter ces récits. On en retrouve de très nombreux dans votre livre « Sous le ciel de l'Éden ». Dans les dernières décennies, on parle beaucoup d'études postcoloniales. Comment vous avez situé vos recherches par rapport à ces études postcoloniales? Et je crois que c'est là un thème éminemment important.
C'est un thème à la mode. Et la mode, parfois, ne fait que répéter des choses anciennes. Mais ce qu'on appelle étude coloniale aujourd'hui, je suis très réticent pour deux raisons. D'abord, je considère que, à commencer par mon ouvrage, La vision des vaincus, le travail, le point de vue de l'historien est toujours singulier, biaisé, nous sommes bien d'accord. Mais ce qui est important, c'est justement de situer cette vision particulière, qu'elle soit coloniale ou non, c'est de situer cette histoire dans le contexte général, dans l'histoire globale. Il y avait une autre mode dans les années 60-70, on disait histoire totale. Bon, maintenant on dit plutôt histoire globale. Une deuxième raison, c'est que, alors du point de vue du travail historique lui-même, souvent les études postcoloniales se méfient des documents d'origine coloniale justement, parce qu'ils sont biaisés, c'est le regard, c'est le point de vue du vainqueur. Mais je répète, y compris un document dont l'origine est indigène, dont l'origine est colonisée, un document colonisé est biaisé également. Il est singulier, il est biaisé. Et le travail de l'historien, c'est de faire le travail critique. Et il s'agit donc, si on rejetait toute la documentation d'origine coloniale pour étudier le monde colonisé, on rejetterait 90% de la documentation. Et ce serait, comment dire, une catastrophe. Et un exemple, la documentation coloniale au Pérou ou en Bolivie, dans les Andes, qui sert à l'exploitation coloniale, c'est-à-dire à la levée du tribut, du travail obligatoire, c'est les recensements. Alors les recensements, travail de la bureaucratie espagnole, coloniale, c'est une source fondamentale pour l'étude de la société indigène. Dans le recensement maison par maison, on a des données fondamentales sur la société indigène. Si on met ça à la poubelle, il ne reste plus grand-chose. Et donc, je suis très réticent en ce qui concerne cette mode qui, je me permettrai d'être un peu brutal, est vraiment obscurantiste.
Les études maranes ont été beaucoup travaillées. Qu'est-ce que vous, qui avez passé votre vie à faire ces recherches, comment vous entrevoyez la suite de vos propres recherches sur le maranisme et la suite des études sur le maranisme? Quel est l'avenir du maranisme, Nathan Vachtel?
L'avenir du maranisme, bon, il a un grand avenir devant lui, dans la mesure où la foi et la pratique risquent de s'atténuer. Mais il reste quelque chose. Alors, l'avenir, s'il y a un avenir, des études maranes serait d'élargir le concept de maranisme. Et c'est un petit peu le programme que j'ai esquissé dans un article qui est paru en 2007 dans la Revue des Annales et que j'ai intitulé « Théologie marane ». Et où il y a un passage justement sur Menassé Ben Israël. Mais je pense à d'autres auteurs dont l'origine juive n'est pas évidente, mais à des auteurs de l'époque comme Guillaume Postel, Jean Bodin, mais on peut aussi aller jusque au XXe siècle. Je pense aux études que l'on peut faire sur, d'ailleurs, un des grands auteurs de la collection Péninsule, Chaim Yerushalmi, a publié un article, justement, rapprochant les études maranes sur l'Espagne et les études que l'on peut faire sur, il a une expression excellente, à propos de l'influence du maranisme, donc, sur l'apport du maranisme à la littérature, à la philosophie occidentale. Et il fait un rapprochement entre l'apport des nouveaux chrétiens en Espagne, dans la péninsule ibérique plutôt, et dans l'Allemagne des 19e et 20e siècles, citant donc les Cervantes, Teresa de Ávila, Kafka, Heinrich Heine, etc. Et je pense au magnifique discours de Kafka sur le yiddish et, suivant l'une des interprétations que l'on peut faire de Kafka, Kafka serait une des quintessences du maranisme contemporain.
Merci Nathan Wachtel pour ces 2 semaines passées en votre compagnie. C'était un véritable plaisir. Merci de nous avoir fait partager votre passion et vos découvertes. Je rappelle le titre de votre livre, Sous le ciel de l'Éden, Juifs portugais, métis et indiens, une mémoire marane au Pérou, point d'interrogation. Je rappelle aussi votre livre que nous avons évoqué, Paradis du Nouveau Monde, paru chez Fayard. Merci encore Nathan Wachtel. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Delphine Baudet, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toute la biographie et la bibliographie de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.